Bonjour tout le monde, chers immopreneurs. J'espère que je vous retrouve en pleine forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous des trucs, des conseils et vous savez quoi, encore plein d'astuces. Et dans cette vidéo particulièrement, je vais partager avec vous sur le plaisir d'inscrire à votre juste valeur et sans compromis. Alors, on regarde ça ensemble pour la prochaine session de formation. Il y a des gens ici qui peut-être me connaissent déjà, d'autres sont tout nouveaux. Alors, pour ceux qui me connaissent moins, je me présente. Mon nom est Louise Dubé. Je suis coach, conférencière, formatrice pour les courtiers et les immopreneurs. En fait, j'aide les professionnels de l'immobilier. On va parler de courtiers immobiliers, hypothécaires et les gens dans le service financier. Finalement, tous ceux qui touchent de près ou de loin le domaine de l'immobilier. J'aide les professionnels de l'immobilier à augmenter leur performance, à atteindre plus de résultats en harmonie avec leur aspiration personnelle. Certainement, comme je l'ai mentionné dans la précédente vidéo, que vous êtes d'accord avec moi que l'immobilier, l'industrie de l'immobilier a beaucoup changé et ça l'exige de notre part de venir s'adapter, de venir comprendre votre rôle, mais surtout de venir comprendre la relation que vous allez devoir entretenir avec votre client, mais avant de l'entretenir, que vous allez devoir créer avec votre client parce que, bon, c'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Parce que votre consommateur a plus de pouvoir. Il veut avoir le pouvoir. Le pouvoir, il l'a sur la technologie, par le biais de l'information, souvent surinformée. Donc, compte tenu que tout ça, c'est différent, on doit s'adapter. On doit être là quand c'est le moment d'être là. Et ce qu'on doit faire en attendant que le client fait « Coucou, j'ai besoin de tes services », on doit quand même rester dans l'action. Alors moi, je préconise qu'il faut quand même rester dans l'action, d'aller voir le monde pour voir si justement il n'y a pas un consommateur, un client vendeur qui cherche peut-être à ce moment les services d'un courtier immobilier. Je vais penser, exemple, aux gens qui ont essayé de vendre leur maison, que la propriété est rendue expirée, au AVPP, par exemple. Alors, c'est sûr que nos clients vendeurs qui, eux, ont un besoin maintenant de vos services, on va devoir être proactif, pas nécessairement attendre qu'ils viennent cogner à ma porte. Vous allez devoir être proactif. Et pour tous les autres clients qui, éventuellement, vont penser à vouloir vendre leur propriété, probablement qu'ils vont devenir aussi, eux, des expirés ou des prochains AVPP. Tout ça pour vous dire que le plus important, c'est qu'il faut s'adapter dans votre façon maintenant d'entrer en relation avec votre client. Donc, c'est quels sont les outils de communication que vous allez utiliser pour vous assurer que vous entrez dans la relation des clients que vous allez choisir, donc votre clientèle cible, et quelle façon vous allez prendre pour communiquer, pour être toujours présent, même si le besoin n'est pas là présentement, même s'il n'est pas prêt maintenant à utiliser vos services, même si vous êtes convaincu qu'il devrait utiliser vos services, il faut que dans le temps, vous soyez présent à venir offrir de la valeur par rapport à votre expertise. Et quand votre client sera présent, quand votre client sera prêt, vous devez être présent. Donc, tout a changé, surtout en référence avec votre façon, les outils que vous avez de communiquer, parce que pour le reste, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a vous, en tant que professionnel de l'immobilier, vous devez avoir une attitude, vous devez être convaincu, vous devez encore vous former, vous informer, être à la hauteur, avoir une image professionnelle, tout ça, OK, ça reste toujours dans la même ordre. Tout ce qui a changé, finalement, surtout, c'est comment arriver à le rejoindre, comment arriver avant même d'offrir vos services, okay, à offrir de la valeur pour vous faire reconnaître. Et quand va venir le moment de proposer vos services, on va déjà savoir de quoi on parle à votre sujet. Alors aujourd'hui, comme je vous le mentionnais, on parle d'inscription, du plaisir d'inscrire, et c'est dans la nouvelle attitude, justement, dans la nouvelle vision que moi j'ai créée dans le programme de coaching et de formation à titre de comment je vous vois, chers professionnels de l'immobilier, maintenant en devenir, et je vous ai nommé et je vous ai identifié comme étant maintenant mes immopreneurs. Immopreneur, un mot inventé, vous me l'avez déjà entendu, OK, vous avez déjà, je m'excuse, entendu l'expression l'expression du mot inventé, IMO pour immobilier, preneur pour entrepreneur, mes deux passions dans ma vie professionnelle. Donc, c'est quoi un IMOpreneur? Il y en a déjà ici qui le savent. Sinon, OK, je fais juste une petite définition pour qu'on soit connectés. Comment je vous vois maintenant les IMOpreneurs, les courtiers immobiliers professionnels de l'immobilier? Un IMOpreneur, c'est un professionnel de l'immobilier qui accepte justement de voir le changement pour se réinventer, parce qu'on a besoin de se réinventer et c'est le consommateur qui l'exige finalement. C'est le consommateur qui nous demande de se repositionner pour pouvoir offrir nos services. C'est aussi un professionnel de l'immobilier qui croit fondamentalement au pouvoir de contribuer collectivement à un monde meilleur dans notre industrie. C'est ensemble et c'est avec nos collègues qu'on va faire en sorte que notre industrie va recevoir ses cartes de noblesse. Aussi, un professionnel de l'immobilier, c'est quelqu'un qui ose pratiquer des nouveaux modèles d'affaires. Si vous n'avez jamais fait de venir voir qu'il est temps d'avoir un modèle d'affaires dans votre business, dans vos affaires, pour être capable justement de vous présenter, pour être capable de vous vendre à la réalité avec les tendances actuelles de l'industrie. C'est aussi un immopreneur, un professionnel de l'immobilier qui contribue foncièrement au sein de l'entrepreneuriat et qu'il porte fièrement en son leadership en tant qu'entrepreneur dans l'immobilier. Et c'est finalement quelqu'un d'extraordinaire, un professionnel de l'immobilier qui croit au pouvoir, qu'il croit au pouvoir et à l'audace de communiquer stratégiquement, mais de communiquer ses concepts de communication, de changer ses concepts de communication, mais qui vont venir surtout toucher le cœur et la raison. Voilà, je viens de vous décrire qui est mon IMOpreneur. Maintenant, je vous emmène dans mes petites instructions vite, parce qu'il y en a qui les connaissent déjà. Alors, ceux qui sont nouveaux, sachez que qu'est-ce qu'on demande quand on suit une formation avec Louise? C'est d'avoir une attitude et de l'ouverture. Il y a des choses avec lesquelles vous ne serez pas d'accord. Moi, j'ai suivi une tonne de formations. J'en suis encore beaucoup et je ne suis pas toujours d'accord. Donc, c'est correct s'il y a des choses avec lesquelles vous êtes moins d'accord, mais pour le reste, si c'est inspirant, prenez-les en note et essayez rapidement de mettre en action ce qui vous inspire, ce qui vous appelle ou vous interpelle finalement. Téléchargez le guide du participant, c'est pour vous. Écrivez des notes souvent au niveau de l'apprentissage. Écrire, voir, entendre, ça nous aide de venir justement prendre plus d'apprentissage. Il y a aussi la présentation PowerPoint. Vive la vidéo et la technologie s'il y a des choses que ça va trop vite. Donc, on prend une pause. Si vous voulez revenir, vous savez quoi faire. Si c'est trop long, ben vous avancez. Hein? C'est ce qui est extraordinaire. Alors, je vous invite à suivre la formation à votre rythme. Crayon, tablette, petit calepin de notes pour vos priorités par rapport à ce que vous voulez mettre en application et buvez de l'eau, ça ressource, ça change l'air de place et ayez du plaisir, vous apprenez à me connaître, vous le savez avec Louise, hein? C'est du plaisir non-stop dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle, c'est tellement important d'avoir plaisir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, qu'on s'assume, ok, dans ce qu'on est, donc si jamais c'est difficile pour vous ou que c'est pas naturel pour vous durant une session de formation d'avoir du plaisir, et là je vous entends, parce que oui, je vous entends, je suis bionique moi, je vous entends, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a assez énervée, elle, avec son plaisir, on veut juste suivre une session de formation. Ben, vive la vidéo, on prend sur pause, on avance, mais sinon, je vous invite avec moi à chaque chapitre de la formation à vous détendre. Je vais vous inviter, du moins moi, je vais le faire parce que je vais en avoir besoin. Je vais avoir besoin de prendre des petites pauses et je vais vous inviter à faire comme moi, à vous détendre, à se dérouiller, à oxygéner un petit peu notre cerveau et à s'amuser surtout. Alors, c'était mes petites instructions. Maintenant, notre programme aujourd'hui, c'est principalement, encore une fois, en cinq étapes, on touche le sujet très chaud de l'inscription parce qu'on le sait, hein, entre vous et moi, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le domaine de l'immobilier. Ça n'a jamais vraiment changé, même s'il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans l'immobilier, il y a beaucoup de différents marchés, le consommateur a évolué, la technologie, il reste qu'il y a une chose, okay, qui n'a pas changé, du moins depuis que j'ai commencé dans l'immobilier, c'est que l'inscription restera toujours a toujours été, est encore et à mon avis restera toujours la partie la plus importante à gérer et à prioriser dans vos activités de développement, dans vos affaires. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, inscrire, c'est quoi quand on parle d'inscrire avec plaisir? Parce que c'est pas évident, surtout dans un marché qui change, surtout dans un marché où notre consommateur a le pouvoir, surtout dans le marché qu'on connaît ici au Québec. Comment est-ce qu'on peut y arriver à prendre sa place? Puis comment est-ce qu'on peut y arriver à garder le plaisir d'inscrire? Finalement, le plaisir d'inscrire, c'est réussir à atteindre, à accumuler nos inscriptions, à prendre des nouvelles inscriptions, à signer des nouveaux contrats de courtage. Ça, c'est le plaisir d'inscrire. Mais le cheminement qu'on prend, comment qu'on y arrive, entre nos deux oreilles, la mentalité qu'on doit avoir, l'approche qu'on doit avoir, qu'est-ce que ça veut dire? Fait qu'on va regarder c'est quoi inscrire avec plaisir. Comment préparer un rendez-vous? Je le dis, je le répète, la préparation d'une rencontre, la préparation à la présentation de vos services peut représenter jusqu'à 50 % des chances de votre succès d'aller chercher votre client. Et là, je dis 50, là, il y a d'autres professionnels, il y a d'autres leaders, hein, parce que moi, j'ai suivi des formations à tonnes, j'en suis encore, les Mike Ferry, Albert Simon, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mon idole, Tom Hopkins, Brian Buffini. Alors, plusieurs vont toujours nous dire, et c'est encore ça aujourd'hui, je parle de 50 %, mais il y en a qui vont même aller jusqu'à 60, 70 % des chances de succès d'aller chercher un client. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. D'autres vont dire, c'est parce que tu manques de confiance. Bon, un moment donné, trop se préparer, comme se passer, oui, ça peut être à la limite une démonstration de doute, de manque de confiance, d'insécurité. Bon, pour les nouveaux, faites attention, trop se préparer, c'est pas une bonne chose. Moi, je me suis fait prendre, OK, quand j'ai commencé dans ma carrière, j'étais jamais assez prête, j'étais jamais assez à mon goût, j'avais jamais l'impression que c'était pour être à la hauteur de l'image ou du client que j'étais pour servir. Il me manquait toujours un petit détail ou, bon, est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent ici, hein? Alors, quand on se sent comme ça, alors que ça fait peut-être 3 mois, 6 mois, moi, ça m'a pris, je pense, 6 mois avant de dire que je suis prête avant de passer à l'action. C'est long, longtemps. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je commençais à être dans le rouge. Fallait peut-être que là, je passe dans l'action. Alors, quand on se sent comme ça, puis que finalement, on se rend compte qu'on finit plus d'être prêt ou de pas être assez prêt, je vous encourage à tout fermer, à tout arrêter, puis à aller dans l'action, parce que, de toute façon, hein, ce que vous avez déjà fait pour vous préparer, c'est un signe qu'il faut maintenant aller mettre en action pour pouvoir venir expérimenter puis venir vous améliorer. Il y a une expression, je la dis souvent, il y a plusieurs des gens qui me connaissent ici, qui fait partie de ma maxime ou de ma citation préférée. Vous savez, peu importe comment tu le fais, c'est souvent entre tes deux oreilles que ça se passe. C'est le mental, qu'est-ce qui brouille, le petit hamster qui brouille entre les deux oreilles. Donc, que tu le fasses bien ou que tu le fasses moins bien, même dans ta tête, tu peux penser le faire mal, mais c'est juste toi qui penses que ça va pas bien entre tes deux oreilles. Parce que de toute façon, on s'aperçoit que tu le fais bien parce que t'as l'expertise, t'as la formation, t'as les connaissances pour y arriver. Peu importe que tu le fasses bien dans ta tête ou que tu le fasses moins bien, le plus important, tu sais quoi? C'est quoi le plus important à ton avis? C'est que tu passes à l'action. C'est juste dans l'action que tu vas arriver à le faire mieux. C'est à force de le faire, de le refaire et de le refaire. Et là, je parle à vous autres, les nouveaux, mais aux gens d'expérience qui ont l'impression qu'il faut comme revoir comment on fait les choses. C'est vrai qu'il faut revoir comment on fait les choses. Ou peut-être que tu as pensé toujours faire les choses de la bonne façon, puis on se rend compte que finalement, il faudrait peut-être corriger. Puis, on sort de notre zone de confort parce qu'on avait l'habitude de faire les choses de telle façon. Ça veut dire sortir de sa zone de confort pour être capable de rentrer dans le changement puis d'adapter d'autres façons de fonctionner pour aller chercher plus de résultats, justement. Donc, que tu le fasses bien, que tu le fasses moins bien, c'est juste entre tes deux oreilles que ça se passe. Le plus important, c'est de le faire et de le faire maintenant. Mets de côté tout ce que tu essaies depuis des mois, des semaines à préparer. Va voir le monde et passe à l'action, puis je te promets que ça va faire la différence. Ça, c'est mon expérience. expérience. OK, donc, préparer à son rendez-vous, présenter pour inscrire en 10 étapes. Donc, je vais vous présenter en 10 étapes comment présenter vos services. Pourquoi 10 étapes? C'est parce que je vais vous le présenter de façon très détaillée. C'est sûr que quand que vous allez rassembler la formation, vous allez pouvoir plus l'adapter et la personnaliser à votre personnalité, hein, à votre tempérament. Peut-être que vous allez vouloir faire ça un petit peu court, puis ça va faire la même job, on se comprend. Et quatrièmement, on va regarder les stratégies pour répondre aux objections. Il y en a une en particulier. Il y en a une en particulier que je vais vouloir vous montrer. Un concept, une méthode de communication pour bien comprendre le traitement pour répondre aux objections. C'est une vieille méthode, parce que j'aime pas dire technique, mais c'est une vieille méthode que moi j'ai appris avec mon idole Tom Hopkins. Donc, c'est ce qu'on va voir en particulier aujourd'hui. Et tout de suite, on commence avec notre première étape qui se trouve à être les 8 ingrédients pour inscrire avec plaisir. Est-ce que vous avez toujours votre guide du participant important si vous voulez écrire des notes, n'est-ce pas? Donc, vous savez quoi faire si ça va très vite. Alors, si vous me voyez comme ça, allez voir dans cette direction ou allez voir dans cette direction, c'est parce que je veux m'assurer que je suis à la même place que vous, hein, quand on parle du guide du participant. Ça vous va comme ça? On continue. Alors, quels sont les 8 ingrédients pour inscrire avec plaisir? Je vais vous parler plus de concepts, de méthodologie, de venir penser dans son esprit, d'avoir un comportement, mais aussi avoir des méthodes, réfléchir à prendre une position. C'est de ces ingrédients que je veux parler avec vous. Première chose, d'entrée de jeu, hein, quand que vous voulez prospecter ou solliciter, parce que oui, aujourd'hui, on a encore le droit de prospecter puis de solliciter. Hein. Quand je parle de droit, là, c'est parce qu'on a l'impression avec la technologie et notre consommateur qui a le pouvoir de décider comme il veut, quand il veut. Il reste que à un moment donné, quand vous sentez que la place, la position est bonne pour aller voir le client, vous allez rentrer quand même en zone prospection. On va rentrer plus en zone prospection pour plus cibler. Quand vous ciblez la clientèle, un expiré, un AVPP, on va voir de moins en moins okay, faire ce qu'on appelle du cold call, mais plus comme cibler la clientèle qui a toutes les chances, que vous voyez toutes les chances de pouvoir aller, de pouvoir répondre à un besoin. Hein? Donc, de pouvoir répondre à un besoin. Moi, j'ai eu longtemps, puis je vais être honnête avec vous, j'ai encore cette méthode-là où je cherche parfois à provoquer une sorte d'intérêt. Donc, il n'y a pas nécessairement de besoin, mais des fois, l'interprétation ou la perception face à un client, je suis arrivée à développer une méthode sans trop imposer ou en laissant la place et le pouvoir au consommateur pour venir voir au fond, s'il y aurait un intérêt de vendre. Donc, prospecter, solliciter, ça a toujours sa place, sauf qu'il faut plus l'adapter avec la façon de communiquer aujourd'hui et les outils de communication qu'on a pour prospecter et solliciter. Dans une autre formation, je vous ai parlé de plusieurs outils de communication, mais ici, on ne pourra pas approfondir sur la prospection et la sollicitation parce qu'il va y avoir une formation exclusivement adressée à ce sujet. Mais ça fait la différence quand vous voulez inscrire que votre prospection soit de qualité, que quand vous choisissez un client, parce que aujourd'hui vous pouvez, oui, vous pouvez choisir votre client que vous prospectez. Alors, quand je parle de choisir, c'est mieux le cibler. Hein? Donc, plus vous allez cibler votre clientèle, plus vous allez prendre la décision courageuse de dire non, ce client-là, je le veux pas. Oui, ce client-là, je le veut pour toutes les raisons que vous allez définir par rapport à votre modèle d'affaires, plus ça va être facile pour vous d'entrer en relation avec les clients. Parce qu'il est possible, il est très fort possible dans l'immobilier, on va entendre ça souvent, qu'on attire toujours le même type de client. Donc, non seulement ça a un rapport avec la relation, le comportement, la personnalité, mais ça a aussi un rapport avec la clientèle que vous voulez cibler pour que ça soit plus facile d'adapter un langage de communication, mais aussi les méthodes que vous allez utiliser pour être au bon moment prête à offrir vos services à votre client. Donc, Plus votre prospection, votre sollicitation est de qualité, plus vous avez le contrôle et le courage de choisir vos clients, plus ça va être facile, okay, ou agréable d'inscrire une propriété. Ensuite, deuxième, un client vendeur préqualifié. Donc, regardez, tantôt, je vais vous mettre en détail qu'est-ce que j'entends par un client vendeur préqualifié. Alors, c'est pas juste les acheteurs là, qu'on préqualifie. Il y a votre vendeur, à partir du moment où vous voyez un intérêt chez un vendeur, il faut venir voir jusqu'à où sa motivation le pousse à vouloir vendre. Ça, c'est un des ingrédients. Puis tantôt, je vais prendre plus de temps pour vous expliquer comment est-ce que, pour vous démontrer, sans vouloir vous expliquer à plus finir, là, mais pour vous démontrer ce que j'entends par préqualifier un vendeur. Être convaincu de sa valeur. On a un problème si vous n'êtes pas convaincu de votre valeur. Revoyez vos concepts, revoyez vos modèles, allez parler avec votre dirigeant d'agence, parlez-en avec vos collègues, faites quelque chose. Si vous n'êtes pas convaincu de votre valeur ou si, par exemple, vous êtes influencé ou vous vous sentez vulnérable à partir du moment où un client, un prospect, un AVPP ou la concurrence avec certaines visions, philosophies, par exemple, avec laquelle vous n'êtes pas confortable, puis qu'à moindrement vous n'êtes pas confortable ou que ça vient comme tout remettre en question la valeur de votre profession ou de vos honoraires ou de ce que vous valez en tant qu'expert, on a un problème. Alors, ça arrive, ça peut arriver, c'est correct, c'est pas que c'est un problème irrécupérable, c'est pas ça que je veux dire, sauf que vous allez devoir revoir, OK, comment vous pouvez redéfinir justement votre valeur, et il y a plein de ressources pour ça qui existent, puis je vais vous encourager d'ailleurs à venir revoir ces ressources, de venir peut-être revoir des gens qui sont aussi convaincus ou plus convaincus que vous pour vous aider justement à venir définir quelle est votre valeur puis comment est-ce que vous pouvez vous en servir de façon convaincue. Ça, c'est un ingrédient hyper important. Être prêt en tout temps, OK, à passer à l'action pour inscrire. Ça veut dire, est-ce que vous avez vos ressources? Est-ce que vous avez un programme? Est-ce que vous avez un modèle d'affaires dans lequel vous allez être capable, à travers ce modèle-là, de présenter vos services? Donc, être prêt en tout temps, être capable d'avoir une stratégie toujours à partir d'un modèle d'affaires pour présenter un programme de mise en marché qui va faire une démonstration à votre client que vous êtes la personne ressource pour justement commercialiser la vente de la maison. Ça, c'était le point 5 en passant. Et le sixième ingrédient, des bonnes inscriptions qui se vendent. Dans mon livre à moi, 5-6% de zéro vente fait zéro. Bon, OK. Il y a des fois, peut-être que vous allez prendre, bon, une chance. Peut-être que des fois, vous allez vous dire, bon, je vais la prendre à ce prix-là, puis après ça, je viendrai corriger le tir. Dépendamment de comment vous allez informer votre client du risque que vous allez prendre, on va le voir un petit peu plus tard. Toujours prendre des inscriptions qui dans la réalité, vous êtes l'expert, vous le savez très bien, vous ne vous rendez pas service et vous ne rendez pas service à votre client et à votre réputation de toute façon. Alors, à un très haut niveau de pourcentage, prenez des inscriptions qui se vendent, très important. Comprendre les objections, on va le voir plus tard. Et comprendre la nature humaine aussi, les comportements, les types de personnalités pour être capable de vous synchroniser avec votre client, que ce ne serait-ce que pour renforcer justement cette relation de confiance avec votre client. Ce sont les 8 ingrédients qui pourraient faire une recette parfaite pour vous donner du plaisir à inscrire. Donc, si ça a été trop vite, vous savez quoi faire? Vous avez juste à faire un petit rewind parce que j'ai l'impression que je suis allée très vite dans les ingrédients, mais je ne veux pas comme recommencer en rafale. Vous savez quoi faire. Donc, tout de suite, je vous emmène dans la préqualification. Ça, c'est à partir du moment où vous avez réussi à obtenir un rendez-vous. Wow! Vous avez eu votre rendez-vous, un prospect, probablement AVPP, par exemple, ou un expiré qui était découragé, qui ne voulait pas la remettre sur leur marché. Vous avez eu un rendez-vous et obtenir des rendez-vous fait partie de la prospection, du développement des affaires. Ne vous inquiétez pas, il y a une formation exclusivement réservée pour la prospection et la sollicitation. Donc, à partir du moment où vous avez votre rendez-vous, avant de confirmer votre rendez-vous dans le sens où on s'entend sur l'horaire, je vous encourage fortement à venir identifier le profil de votre client vendeur, dans votre intérêt comme dans l'intérêt de votre client, et ça fait partie de la préparation du 50-60% des chances de succès d'obtenir une inscription. C'est justement dans votre façon de préqualifier le profil de votre vendeur. Alors, qu'est-ce qu'on doit regarder? Regarder ses attentes, regarder sa motivation, venir voir si vous avez toutes les informations que vous avez besoin pour évaluer la propriété. Prévoyez, demandez s'il prévoit de rencontrer, par exemple, un autre courtier. Est-ce qu'il a déjà vécu l'expérience avec un courtier précédemment, dans le passé? Est-ce qu'il a déjà pensé de la vendre par lui-même? Donc, si on parle d'attente ou de motivation, le genre de question que vous pourriez poser, c'est est-ce qu'il y a eu une source de référence, par exemple, si c'est un AVPP, est-ce qu'il y a eu une référence pour être capable de fixer son prix comme celui qui prétend avoir pour la vente de sa maison? Ça pourrait être aussi, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire après la vente de sa maison? Au niveau de sa motivation, c'est... par exemple, à quel moment il souhaiterait déménager? Pourquoi il veut déménager? Qu'est-ce qu'il veut changer, par exemple? Ça pourrait être le genre de question, comment sa famille ou, lui et elle, le jeune couple, par exemple, se sentent par rapport, justement, à ce grand projet de vouloir vendre la propriété? Parce que parfois, ça peut être inconfortable. Il y a quand même, c'est un grand projet, déménager, c'est pas rien quand même, surtout si on a des enfants qui ont été habitués. Donc, venir faire une démonstration auprès de votre prospect, comme quoi que vous n'êtes pas juste l'expert qui va faire une évaluation, mais vous avez le souci, en posant vos questions, c'est toujours dans l'art de poser les questions, que vous avez le souci de comment il va vivre l'expérience. Et croyez-moi, quand vous touchez ces cordes sensibles aujourd'hui, vous gagnez beaucoup de points. Donc, préparez-vous avant d'obtenir votre rendez-vous et de confirmer votre rendez-vous, une espèce de petit formulaire qui vient vous rappeler les questions clés, qui a rapport avec ses attentes, qui a rapport avec ses motivations, alors émotionnelles ou plus techniques, pratico-pratiques, par rapport à sa propriété. C'est sûr que la propriété, s'il a déjà été sur le marché, c'est relativement plus facile de venir définir les critères de la propriété, mais des fois, il y a des choses que vous allez regarder, que vous allez observer sur la définition de la propriété qui va allumer des lumières par rapport à peut-être pourquoi c'est pas vendu ou qui va vous allumer des lumières pour poser plus de questions, par exemple, s'il y a eu des rénovations. Comment il voit le propriétaire, sa maison, par rapport aux rénovations et à l'investissement qu'il a fait au niveau des améliorations? D'être capable de... On le sait qu'en majorité, les propriétaires peuvent avoir l'impression que toutes les améliorations, il va pouvoir les récupérer. Mais aller chercher le pouls, le sens, comment il se positionne par rapport à comment il voit sa maison. Et tout le reste, comme je m'excuse, de venir voir. Oui, ça se pose comme question à savoir s'il prévoit voir un autre courtier. Ça se pose parce que on met les cartes sur table, on met le jeu sur la table, à savoir que le client, il est roi, il a le pouvoir. Il pourrait peut-être même vous le dire avant que vous lui demandez. Faites-vous-en pas, soyez pas surpris, on va vous rencontrer, Madame Dubé, mais on a l'intention d'en voir un autre ou un autre pour le comparer. Donc, c'est important que vous le sachiez. Est-ce que vous allez changer votre attitude? Pas nécessairement si vous avez un modèle d'affaires dans lequel vous êtes convaincu de votre valeur et de votre programme qui vient justifier justement votre expertise. C'est pas censé venir changer votre façon de présenter les choses. Et il faut s'attendre à ce que votre client propriétaire vendeur puisse venir voir justement un autre courtier ou de venir savoir, par exemple, qu'il connaît quelqu'un dans la famille ou c'est quelqu'un, un ami ou... Vous avez ça comme dans votre balance, que ce ne serait-ce que pour préparer la réponse à vos objections, parce que ça va faire partie d'une objection. Et à ce moment-là, ça va être plus facile pour vous de traiter l'objection parce que vous allez voir venir l'objection de « je connais quelqu'un dans ma famille, mes amis » ou « je connais quelqu'un dans mon environnement ». Ça va? Et s'il a l'intention de la vendre par lui-même ou par eux autres mêmes, de venir le savoir d'avance, quelle position vous allez prendre par rapport à ça. C'est sûr que quand vous allez prendre le rendez-vous, la dynamique peut changer, l'orientation peut changer. Quand je vous dis vous préparer, c'est pas de mettre des œillères, puis de mettre ça dans un cadre, puis de dire c'est juste comme ça, je vais y aller. Mais préparer juste pour vous préparer mentalement à l'individu, hein, à la personne, à la mentalité, au propriétaire, à son histoire justement, à son vécu, à ses attentes. C'est surtout à ce niveau-là que la préparation est très importante. Donc, c'était surtout au niveau de la préparation, j'ai voulu mettre de l'importance sur la préparation et préparation au niveau des questions, dans l'art de poser les questions. Et à partir du moment où vous avez, ça prend pas longtemps, là je vous explique beaucoup en détail, mais quand vous avez fait 5-10 minutes autour de je pose des questions pour définir mon profil de client-vendeur, vous avez fait le tour. OK? Et tout de suite après, vous enchaînez justement à reformuler le rendez-vous que vous avez pris. Donc, ça peut tout simplement se terminer. Alors donc, monsieur, madame le client, comme entendu, on va se voir tout de suite, on va se voir jeudi, par exemple, le 19, à partir de 19h. Alors, vous reformulez le rendez-vous. Je vous encourage d'ailleurs à faire une démonstration de votre engagement pour que le propriétaire vendeur vous prenne au sérieux. Parce que malheureusement, des fois, le propriétaire va dire, bon, je vais lui dire oui, on va voir qu'est-ce qu'il y a à dire, puis si jamais ça ne me tente plus, je pourrais annuler, par exemple, ça pourrait arriver, hein. Donc, vous pouvez avoir l'expression suivante ou la formulation suivante. Monsieur, madame le client, sachez que j'inscris dans mon agenda le 19 à 19h, par exemple, et soyez certain que je m'engage et que je ne prendrai aucune obligation. Vous pouvez compter sur moi. Vous allez me dire, c'est comme beaucoup, vous pouvez comme peut-être la modérer. Là, j'ai un peu exagéré, mais de venir faire sentir au prospect comme quoi que pour vous, c'est important cet engagement-là, ça fait que finalement, le client, il va devoir prendre au sérieux aussi avec respect votre engagement. Et vous pouvez terminer avec justement, avez-vous des questions au sujet de la rencontre, parce que vous lui avez quand même énoncé, vous lui avez quand même posé beaucoup de questions, vous avez peut-être même formulé qu'est-ce que vous avez l'intention de faire durant la rencontre. Ça, c'est un point que je trouve important aussi, de venir donner sommairement, brièvement, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire durant votre rencontre. Puis, quand vous présentez une façon sommaire de ce que vous allez présenter durant votre rencontre, votre client, il va avoir déjà une idée. Hein? Il ne sera pas comme sur « je vais me poser des questions » ou il ne sera pas comme juste sur une évaluation de la propriété. Donc, si vous lui dites d'entrée de jeu, avant au moment où vous allez confirmer le rendez-vous, en définissant justement son profil, maintenant, monsieur, madame le client, voici ce que je vous propose de faire quand je vais venir vous rencontrer. Dans un premier temps, je vais visiter votre propriété. Dans un deuxième temps, je vais vous poser des questions justement sur votre objectif de vendre. Je vais vous présenter une évaluation, puis je vais en profiter, OK, pour vous expliquer ma méthode de travail. Et ensuite, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de pouvoir répondre. Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'on est toujours correct pour jeudi le 19 à 19, vous pouvez compter sur moi. Donc, c'est une approche pour venir déjà d'entrée de jeu, avant même d'entrer dans la maison, OK, venir souligner votre engagement puis de commencer à créer une relation avec l'objectif de pouvoir aller chercher justement votre inscription. Je vais terminer ici pour cette partie de la formation. Quand on pose, j'appelle ça la question qui tue, hein, à partir du moment où j'ai confirmé le rendez-vous, avant de terminer et passer à autre chose, on pourrait poser la question au client, est-ce que vous avez des questions? Souvent, à poser cette question, est-ce que vous avez des questions? Il est possible, et sûrement pour ceux qui ont de l'expérience, sans même la poser, cette question, avant cette question que de poser des questions, finalement, je vais finir avec mes questions, je vais y arriver, là. Ce que je veux dire, c'est que votre client vendeur vous demande cette question qui tue, je vous l'ai dit tout de suite, elle est de combien votre commission? On l'aime pas, cette question-là, avant même de se présenter au rendez-vous. Quand on vous pose la question, elle est de combien votre commission? Alors, une chose, vous allez devoir répondre à la question. Surtout ne pas prendre une position de confrontation ou une position de « on verra ça quand on se verra ». Votre client, il vous a posé une question. De toute façon, vous allez devoir lui répondre parce que ne pas savoir répondre, ça va manquer de professionnalisme. Ça peut même laisser sous-entendre que vous ne vous sentez pas confortable avec votre commission. Et là, je dis commission parce que c'est le langage de votre client. Je le sais, c'est une rétribution. Mais rétribution, votre client, il n'est pas familier avec ça. Alors, il y a une technique que moi, j'ai retenue, c'est une technique de Mike Furry, que j'ai retenue et adaptée à ma façon, justement, d'approcher cette question que j'apprécie et que je partage avec vous. Alors, si on vous demande, avant même de vous présenter à la maison pour le rendez-vous de votre client, elle est de combien, votre commission? Vous pouvez répondre de la façon suivante. Voyez-vous, monsieur, madame, le client, cela dépend. Et ça dépend vraiment si je la vends ou non. Il faut savoir, tout d'abord, que en partant, quand j'inscris votre propriété, je l'inscris gratuitement et c'est juste à la signature chez le notaire que, selon mon modèle d'affaires et mes honoraires prévus, vous allez recevoir 94 % du prix vendu de votre maison et ensuite le notaire va être chargé d'aller verser 6 % du prix vendu de votre maison à mon agence immobilière pour mes honoraires et les frais de courtage. Et à partir de là, mon agence immobilière va pouvoir faire la répartition de mes honoraires. Pas pire, hein? Alors, vous allez pouvoir faire rewind. Donc, c'est juste pour venir présenter de façon différente. Bon, OK, on pourrait dire c'est 6 %. Sauf que dans la réalité, on s'entend que c'est vrai que tout dépendamment si on la vend ou non, c'est vrai que si je l'inscris gratuitement, donc pas de problème, de déjà le préparer mentalement, que de toute façon, l'inscription, c'est moi qui prends le risque, je l'inscris gratuitement, puis que chez le notaire, et seulement quand on est rendu chez le notaire, c'est là que on va donner instruction au notaire de reverser à votre client 94 % du prix vendu, et qu'il va recevoir instruction de verser à votre agence, parce que c'est pas vous qui recevez directement dans votre poche le 6 %, mais ça va se verser directement à votre agence 6 % du prix vendu pour vos honoraires. Avez-vous compris que je parle d'honoraires et non de commission ou même de rétribution? Parce que mettre dans l'esprit, dans la mentalité que votre profession, si on parle d'honoraires et en parlant d'honoraires, on parle de service professionnel. Et quand on parle d'honoraires, service professionnel, on vient de donner une note supplémentaire sur sa valeur. C'est dans ce sens-là que j'utilise le mot honoraire. Et que ce 6 % d'honoraires qui va être versé à l'agence, êtes-vous d'accord qu'à partir du moment où on reçoit le 6 %, il y a une répartition aux collaborateurs, il y a une répartition pour vos frais, il y a une répartition pour la TPS-TVQ, il y a une répartition pour vos dépenses d'opération et que vous allez recevoir juste le montant net. Là, je vous l'explique à vous, mais ce n'est pas ça que vous dites à votre client au téléphone. Vous avez compris ça, hein? Vous pouvez juste dire, cela dépend, je répète une dernière fois, si je la vends ou non. De toute façon, je l'inscris gratuitement et c'est juste rendu chez le notaire que le notaire va avoir instruction de vous verser 94 % de votre maison vendue et il va verser automatiquement 6 % à notre agence immobilière pour mes honoraires et les frais de courtage. Vous pouvez ajouter ou, si vous n'êtes pas confortable, tasser cette réponse ou mettre de côté cette réponse et dire « Soyez sûr d'une chose, monsieur, madame le client, rassurez-vous parce que mon objectif à cette rencontre, c'est surtout de venir voir si je peux réaliser la vente de votre maison au juste prix et aux meilleures conditions pour vous, incluant mes honoraires de courtage. » Rassurez votre client par rapport à cette question, elle est de combien votre commission? Faites une démonstration, parce que là, c'est avant le rendez-vous, que votre objectif, c'est vraiment, véritablement et sincèrement réaliser son projet en autant que vous soyez capable de réaliser son objectif, incluant vos honoraires de courtage. Donc, Je répète, peut-être que cette partie-là, vous la préférez. OK? Donc, rassurez-vous, monsieur, madame, le client. Mon objectif est de voir si je peux réaliser la vente de votre maison à un juste prix, aux meilleures conditions, incluant mes honoraires de courtage. Là, j'ai mis beaucoup d'emphase, OK, sur l'intonation, mais c'est une réponse que moi, j'ai adaptée puis que je trouve qui coule, qui va bien. Et à partir de là, le client fait comme, « Ah, OK, c'est correct, donc on se voit le 19 à 19. » Et ça, ça fait partie justement des plaisirs et des ingrédients, OK, pour avoir du plaisir à inscrire. Well, something got me shaking my-